France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, exerçons-nous librement notre libre arbitre. Il y a plus de 4 siècles, Blaise Pascal écrivait ceci. L'homme est à lui-même le plus prodigieux objet de la nature, car il ne peut concevoir ce que c'est que corps, et encore moins ce que c'est qu'esprit, et moins qu'aucune chose comment un corps peut être uni à un esprit. C'est là le comble de sa difficulté, et cependant c'est son propre être. Fin de citation. Depuis lors, les chercheurs ont-ils progressé dans l'examen de cette difficulté entrevue par l'auteur des pensées ? Par exemple, ont-ils appris des choses à propos de ce que nous appelons le libre arbitre ? Nous avons tous le sentiment que nous sommes capables de faire des choix raisonnés, de prendre des décisions librement et mûrement réfléchies, et que notre cerveau est en somme là pour en prendre acte et exécuter nos volontés. Mais qu'en disent les neurosciences contemporaines ? Se pourrait-il que notre bon vouloir apparent soit sous le contrôle d'activités neuronales indépendantes de ce que nous appelons notre conscience ? Pour répondre à cette question que je devine délicate, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Charpier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en neurosciences à l'Institut du Cerveau et vous venez de publier un ouvrage intitulé « Le cauchemar de Descartes » aux éditions Albin Michel. Ma première question, Stéphane Charpier, porte sur les poissons rouges. Est-ce que, lorsque vous vous trouvez devant un aquarium, vous continuez à vous amuser, à toquer sur la paroi pour jouir de voir les poissons se disperser dans toutes les directions ? Ou est-ce que ce petit plaisir vous a passé ?
Non, alors le plaisir ne m'a pas passé. Par contre, ce qui a disparu, ce sont les aquariums. Mais par contre, je me venge en fait sur les bassins dans lesquels il y a des poissons rouges qui nagent.
Donc vous toquez.
Très, très beau en Bourgogne. Non, je ne toque pas parce que ce sont des grands bassins en pierre, mais je jette des cailloux dedans et je vérifie du coup que le réflexe de fuite des poissons rouges, sur lequel j'ai étudié pendant de nombreuses années, existe toujours.
Donc quand vous toquez une première fois, ils se dispersent, et puis si vous toquez à nouveau, ils se dispersent moins, ils s'habituent en fait.
Alors c'est pas vraiment un phénomène d'habituation, c'est un peu plus compliqué que ça. On appelle ça la désensibilisation, mais ça revient un peu au même. Alors si on tape une fois, ce qu'on va faire en fait, on va créer un son dans l'eau. Et ce son va se propager et va percuter l'oreille interne du poisson, car les poissons ont des oreilles, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et en faisant ça, ils vont activer un nerf auditif, comme chez nous. Hein. Ils vont déclencher ce qu'on appelle des potentiels d'action, c'est-à-dire des influx nerveux électriques qui vont se propager. Et ces influx électriques vont aller secondairement activer une cellule. Une cellule qu'on pourrait comparer à une sorte de neurone de commande. Ce neurone de commande, il a un nom, c'est la cellule de Meitner. Et quand cette cellule de Meitner est activée d'un côté du cerveau, elle va provoquer une contraction des muscles de l'autre côté. Par conséquent, quand vous tapez sur votre aquarium à un moment donné, le poisson qui va avoir une certaine position longitudinale par rapport au choc va fuir du côté opposé. Voilà. Et si on le fait plusieurs fois, finalement, le poisson qui n'est pas idiot, contrairement à ce qu'on croit aussi, il va arrêter de fuir. Mais parce que, d'une certaine manière, il a saisi, je n'ai pas dit comprendre, il a saisi qu'il n'y avait pas de danger imminent, et sans être finaliste, je ne suis pas finaliste, il va arrêter de s'enfuir.
Alors ça, c'est des choses que vous avez découvertes, mais qui sont consécutives à cette expérience que vous faisiez enfant de toquer sur les parois des aquariums. Alors vous avez ouvert des crânes de poissons rouges ?
C'est ça. Alors, je ne l'ai pas découvert. C'est un phénomène que tout le monde peut tester facilement.
Le phénomène, mais l'explication ?
L'explication, oui. C'est là-dessus que j'ai fait ma thèse, en fait. J'ai travaillé à l'Institut Pasteur dans mes jeunes années. Et j'avais détecté ce laboratoire parce que j'avais lu dans l'annuaire de l'INSERM que c'était un laboratoire qui étudiait les bases neuronales du comportement. J'avais été fasciné par la capacité de pouvoir associer neurones et comportements et de pouvoir tout expliquer, d'autant plus que là, on traitait d'un comportement extrêmement important, parce que c'est un comportement de survie. On dit réflexe, mais c'est pas vraiment un réflexe, c'est un comportement de survie qui permet à cette espèce de poisson qui appartient aux téléostéens de survivre consécutivement à une attaque et de faire en sorte qu'on est là tous les deux puisque ce sont nos ancêtres.
Téléostéens, c'est le nom savant pour poisson rouge?
Non, c'est le nom savant pour la classe correspondante au poisson rouge. Donc c'est la plus grande classe de poissons en fait. Il y en a énormément de téléostéens. Les poissons rouges font partie des téléostéens et nos ancêtres sont remontés de proche en proche, des générations. Eh bien, vous avez un ancêtre, Étienne Klein, qui était quelque chose comme un poisson rouge.
Bon, bah écoutez, moi, ça, je ne prends pas ça du tout comme une humiliation. Même, c'est plutôt un motif de fierté, en tout cas de reconnaissance.
De satisfaction, même.
Ça, oui, on peut le dire comme ça. Mais pendant votre thèse, vous avez donc ouvert des boîtes crâniennes,
oui,
de poissons rouges.
Beaucoup.
Déposer des électrodes, c'est bien ça?
J'ai fait beaucoup d'expériences comme ça. C'était aussi une époque où on faisait beaucoup d'expériences. On travaillait tous les jours, on travaillait tous les week-ends. Et puis on essayait de faire le plus d'expériences possible pour avoir une meilleure reproductibilité des expériences et de pouvoir publier dans des très bons journaux. Donc là, l'idée, c'était effectivement... Bah c'est déjà l'idée qui était très compliquée, c'était d'essayer de faire vivre un poisson en dehors de l'eau. Donc ça a été l'une de mes étapes quand je suis arrivé dans le laboratoire à l'Institut Pasteur, c'est-à-dire de fabriquer et de mettre au point un système qui permet à un poisson de vivre en dehors de l'eau, donc il vient de lui perfuser de l'eau dans la bouche, le fixer à une sorte de petit aquarium, ouvrir la boîte crânienne, comme vous avez dit, et puis une fois qu'on ouvre la boîte crânienne, il faut trouver les neurones qui nous intéressent. Et c'est là où la chasse aux neurones commence.
Il y en a combien ?
Des neurones ?
Chez le poisson rouge.
Énormément. Alors, j'ai pas le nombre, hein. Je connais mieux le nombre de neurones dans le cerveau d'un être humain, environ 80 milliards, 90 milliards. Chez le poisson, je ne sais pas, mais il y en a beaucoup. Et je me souviens d'ailleurs, c'est amusant, mais quand je travaillais sur le cerveau du poisson rouge au début des années 1990, certains de mes amis étaient même surpris parce qu'ils pensaient que les poissons rouges n'avaient pas de cerveau.
Donc, vous savez qu'ils en ont un et il est richement doté en neurones. Et quel type d'expérience avez-vous faite?
Alors, c'était des expériences qui étaient particulièrement compliquées et je peux me vanter que j'étais à l'époque le seul à le faire. Alors, ça consistait à mettre une électrode, une micro-électrode, on appelle ça même, parce que ce sont des électrodes extrêmement fines qui font en dessous du micromètre, du millionième de mètre à la pointe. Donc à l'intérieur d'un neurone, le neurone dont je parlais tout à l'heure, qui déclenche le réflexe de fuite. Et puis, je mettais aussi une autre électrode dans les neurones qui connectent ce neurone qui déclenche le réflexe de fuite. Donc je faisais ce qu'on appelle un enregistrement de paire de neurones connectés. Et par conséquent, ça c'est la situation idéale pour un neurophysiologiste, puisqu'on a les deux versants du fonctionnement du réseau de neurones, le versant qu'on appelle techniquement présynaptique, et puis le versant qu'on appelle postsynaptique. Donc j'enregistrais les deux, et j'enregistrais donc la réponse du neurone qui déclenche la fuite quand je stimulais le neurone présynaptique, c'est-à-dire celui qui connecte le neurone en question. Et en faisant ce type d'enregistrement, eh bien, j'ai montré que après avoir répété plusieurs fois une stimulation du nerf auditif, c'était pour mimer en fait ce qui se passe quand on tape plusieurs fois sur un aquarium, eh bien, si je stimule électriquement, mais répéter ce nerf, eh bien, je me rends compte que l'inhibition qui est transmise par le neurone présynaptique dont je parlais tout à l'heure sur la cellule de Motner, cette inhibition augmente. Et si cette inhibition augmente, ben on va diminuer l'excitabilité de la cellule de Motner et on va l'empêcher de déclencher un potentiel d'action. Par conséquent, ce phénomène de désensibilisation comportementale peut être expliqué intégralement par une modification de la force des connexions synaptiques inhibitrices dans le cerveau.
Pour parler plus simplement, Stéphane Charpier, vous allez expliquer le phénomène que vous observiez enfant en tapant sur la paroi des aquariums.
Exactement.
La première fois, les poissons fuient dans toutes les directions, et puis la deuxième fois, ça marche moins bien.
Alors la deuxième fois, ça peut marcher encore.
Mais la troisième, pas du tout.
Disons, en fait, tout ça est un phénomène probabiliste, comme le fonctionnement du cerveau d'ailleurs. Disons que ce que l'on peut dire à coup sûr, c'est que si on augmente le nombre de stimulations, la probabilité de déclencher un réflexe va diminuer en même temps, parallèlement au nombre de stimulations qui ont été appliquées.
Ça vaut aussi pour les humains?
Ça vaut aussi pour les humains. D'ailleurs, on en fait l'expérience tous les jours, je pense. Là, si tout à coup vous subissez un petit stimulus sensoriel, la première réaction que vous allez avoir, c'est avoir une réaction de déplacement attentionnel. Vous allez déplacer votre focus attentionnel vers la chose qui vous a stimulé. Vous vous interrogez sur qu'est-ce que c'est que ce stimulus. Éventuellement, est-il dangereux? Est-il positif? Enfin, il y a plein de questions qui se posent. D'ailleurs, inconsciemment, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Et puis, mais finalement, vous constatez que ce stimulus était parfaitement anodin. Et ben, s'il recommence après, vous n'allez pas vous déplacer vers ce stimulus.
On va parler du libre arbitre, Stéphane Charpier, qui est un des sujets que vous traitez dans votre ouvrage Le cauchemar de Descartes. Mais avant, je voudrais que vous nous expliquiez ce que vous appelez la neurophilosophie. Est-ce que ça consiste à faire des expériences de pensée sur la pensée, comme les physiciens font des expériences de pensée sur la nature, sur le réel ?
Alors, déjà, je ne suis pas neurophilosophe, et le mot neurophilosophie n'est pas de mon invention. En fait, la neurophilosophie, je vais être un peu rude, je m'excuse, mais c'est l'art des philosophes de parler du cerveau sans comprendre son fonctionnement. Et en particulier, la neurophilosophie, pour des raisons qui peuvent se comprendre d'ailleurs par rapport aux préoccupations philosophiques communes, la neurophilosophie s'intéresse essentiellement à la relation qui existe entre le fonctionnement du cerveau, qu'ils ne connaissent pas à proprement parler, et puis quelque chose qu'ils peuvent appréhender par le langage de la philosophie et par les concepts philosophiques, qui est le contenu de la sphère mentale, les expériences mentales en général, et disons plus généralement les expériences subjectives.
Vous diriez de Descartes qu'il était un neurophilosophe, entre autres ?
Il était probablement un neurophilosophe quand il a tenté d'établir son système physiologique prodigieux qui, soi-disant, mais hélas, ça s'est avéré faux, qui permettait d'expliquer comment l'âme... Alors nous, on pourrait dire aujourd'hui, parce que l'âme de Descartes, elle est difficilement définissable dans des termes plus modernes, mais disons que l'esprit, on pourrait aussi parler de conscience phénoménale, peut agir sur le cerveau pour pouvoir produire les comportements idoines. Le piloter, le contrôler véritablement.
On a parlé d'expérience de pensée, je ne sais pas si c'était le mot qui convient pour parler de neurophilosophie, mais vous, dans votre livre, Stéphane Charpier, vous faites des expériences de pensée. Par exemple, vous avez inventé un personnage que vous avez appelé Marie. Marie, elle sait tout sur tout, sauf qu'elle est confinée dans un lieu où tout est noir et blanc, ou blanc, il n'y a pas de couleur. Mais elle sait ce que c'est qu'une couleur, elle sait que c'est une longueur d'onde du spectre électromagnétique, mais elle n'a jamais vu de couleur.
Alors, c'est pareil, c'est pas moi qui... Je suis désolé, c'est pas moi qui l'ai inventé non plus, mais disons que j'ai...
Vous l'avez baptisé.
Disons que je l'ai développé. Disons que dans sa version originelle, cette expérience de pensée, elle est plus ramassée, elle est plus rapide. Mais grosso modo, c'est ça. Donc Marie est une jeune femme prisonnière dans un environnement qui est intégralement noir et blanc. Alors elle est née dans cet environnement, elle a grandi dans cet environnement, mais elle a quelque chose de plus, Marie, que nous n'avons pas, c'est qu'elle a une connaissance totale du monde physique grâce à la connaissance qu'elle peut acquérir avec des outils d'information qui eux-mêmes sont en noir et blanc. Donc comme vous l'avez dit, elle ne sait pas au sens phénoménal, au sens de l'expérience subjective, ce qu'est une couleur. Par contre, ce qu'elle sait très bien, elle sait très bien ce que c'est en physique qu'une longueur d'onde qui correspond à une certaine couleur. Ça, elle le sait très très bien. Mais elle sait aussi la manière avec laquelle les photorécepteurs de l'œil vont intégrer l'énergie transmise par ce rayonnement et comment cette énergie transmise par ce rayonnement va produire une excitation ou une modification d'activité électrique des neurones de la rétine qui vont secondairement, et c'est là où ça devient très important et où l'expérience prend toute son importance, c'est que cette longueur d'onde va finalement, elle va se transformer en un pattern d'un flux électrique dans des prolongements de neurones qui vont être transmis dans le cerveau et finalement atteindre une zone du cortex cérébral qui se trouve dans la région postérieure de notre cerveau, qu'on appelle le cortex visuel primaire, et qui est le premier relais qui permet en fait de se représenter consciemment la couleur. Tout ça, elle le sait très très bien. Mais par contre, elle n'en a jamais fait l'expérience elle-même.
Et donc, qu'est-ce qui lui arrive si elle sort de cette... habitacle dans lequel elle a été confinée, elle découvre le monde extérieur avec ses couleurs. Qu'est-ce qui se passe pour elle, pour sa conscience, pour son cerveau ?
Ben voilà, une expérience de pensée, et comme j'écris dans mon livre, chacun peut avoir sa réponse. Évidemment, cette expérience ne peut être réalisée véritablement. Tout l'intérêt de cette expérience de pensée, c'est justement d'y répondre, mais d'y répondre théoriquement. Si on considère, par exemple, que la connaissance totale de ce que c'est qu'une lumière, que ce que c'est qu'une longueur d'onde, que ce que c'est qu'une couleur, au sens physique du terme, simplement, et si on sait intégralement les processus neuronaux, ceux de l'œil et ceux du cerveau, qui permettent d'encoder et finalement de se représenter les couleurs, si on est ce qu'on appelle physicaliste, c'est-à-dire si on considère que tout ça peut tout expliquer, on peut considérer que Marie, quand elle voit pour la première fois des couleurs, elle ne sera pas surprise.
Elle comprendra en tout cas ce qui lui arrive.
Elle dira, bah bien sûr, c'était ça. C'était comme ça une couleur. Je le sais, puisque je sais toute la part physique de ce que c'est que d'intégrer des longueurs d'onde de lumière et qui ensuite permettent de se les représenter mentalement.
Mais sans doute, elle trouverait cela beau quand même. Même si elle est préparée, ça doit quand même l'impressionner, non ?
Alors, je ne sais pas ce que vous pensez, vous, de cette expérience de pensée, comment vous avez essayé d'y répondre.
Je me suis dit que voir du rouge, alors qu'on ne connaît que l'idée du rouge par des équations, ça doit provoquer un choc.
Je pense aussi comme ça. Et une fois qu'on a répondu ça, tiens là, c'est une réponse qui a l'air un peu... je pense que beaucoup de personnes la partagent, cette réponse. Mais il faut comprendre la profondeur de cette réponse. Parce que si c'est le cas, si effectivement Marie est surprise et étonnée, et même ébahie de voir des couleurs en vrai, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'on est incapable d'expliquer intégralement la sensation visuelle ou la représentation mentale d'une couleur sur la seule base de la connaissance physique du rayonnement de la lumière et du fonctionnement du cerveau. Donc ça veut dire, et la conséquence, elle est terrible, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus.
C'est toujours ce qu'on dit de la conscience. Il y a toujours quelque chose de plus. Le physicalisme laisse penser de ce qu'elle est.
Le physicalisme laisse penser de ce qu'elle est, mais le physicalisme prétend fondre dans un même creuset métaphysique et même, je dirais, biologique, la conscience et les propriétés physiques du cerveau. Mais le fait est, et c'est ce que nous faisons en ce moment, c'est que effectivement notre cerveau est en train de fonctionner, les propriétés physiques de notre cerveau fonctionnent, mais on est certainement en train de produire autre chose. C'est l'autre chose dont je parle de Wittgenstein. Il y a quelque chose en nous. Il y a autre chose en nous. Cette autre chose en nous, c'est quoi ? Eh ben, c'est le versant phénoménal, subjectif, du fonctionnement physique du cerveau.
Autrement dit, il faut comprendre, Stéphane Charpier, comment un objet physique, disons, le cerveau, peut produire de la subjectivité.
C'est l'énigme absolue, de mon point de vue en tous les cas. Alors on peut échapper à cette énigme, certains de mes collègues le font, en disant que cette question en fait n'a pas de sens. Alors là, c'est encore un autre positionnement neurophilosophique, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors c'est encore un isme. Il y a beaucoup d'ismes dans la neurophilosophie qui consiste à considérer que en fait l'expérience consciente, le contenu phénoménal de la sphère mentale, c'est en fait un versant d'une même pièce. Et l'autre côté, il y a le cerveau. C'est la même chose, c'est juste un point de vue différent. Donc ça consiste à considérer qu'on peut réduire, là c'est un positionnement réductionniste et physicaliste, qui consiste à dire, en fait la question ne se pose pas de savoir s'il existe une transformation ontologique entre le fonctionnement du cerveau et l'expérience mentale. On peut dire, c'est la même chose. C'est la même chose, regarder avec deux points de vue différents, mais on parle bien de la même chose.
Mais on n'échappe pas au piège de l'autoréférence quand on parle de la conscience.
L'auto-référence, nécessairement.
On a toujours l'impression d'avoir affaire à une question de queue de poisson qui serait mordue par le poisson dont elle est la queue.
En fait, le problème principal de la conscience, si l'on veut en parler, comme je suis en train de le faire, ou que n'importe qui peut le faire, c'est que la conscience, ou du moins sa dimension phénoménale, sa dimension subjective, c'est une expérience à la première personne. Et par conséquent, la seule référence que j'ai, moi, de la conscience, c'est la mienne. Par exemple, je prends le pari, mais je n'en sais rien que vous, Étienne Klein, quand vous me regardez, vous avez une expérience interne.
Je confirme.
Vous confirmez. Oui, mais je ne suis pas obligé de vous croire. Je ne suis pas obligé de vous croire. Et je dirais même plus que vous êtes rigoureusement incapable, on peut essayer, de me faire vivre ce que vous êtes en train de vivre intérieurement. Ça, c'est rigoureusement impossible. Même si on était très amoureux tous les deux, il n'y aurait aucune possibilité, même si on a beaucoup d'empathie avec une personne. C'est ce que me disent mes étudiants. Ils disent, mais quand on tombe amoureux, c'est un peu ce qui se passe. Je dis, je veux pas trop les déprimer par rapport à ça. Je dis, c'est pas forcément ça non plus. Puis c'est pas très grave si c'est pas comme ça que ça se passe. On n'a aucun accès, non pas au contenu de la conscience, parce qu'on pourrait très bien, là vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de ressentir, mais ce seront des images, ce seront des mots. Mais la dimension phénoménale du contenu de votre conscience, c'est votre secret intérieur, c'est notre secret intérieur à tous, et il n'y a aucun moyen de le partager avec qui que ce soit. On peut juste utiliser, par le truchement du langage, et par des formules symboliques ou autres, essayer de faire passer un message. Mais ce message-là, il ne correspondra pas ontologiquement à l'expérience qu'on a.
Donc si je vous comprends bien, c'est Stéphane Charpier, ça veut dire que l'activité mentale a quelque chose, pour celui qui l'accueille, oui, d'indicible.
C'est ce que je pense, c'est ce que pensait Wittgenstein aussi. Et je pense qu'on peut en faire... on peut en faire l'expérience immédiatement. D'ailleurs, Wittgenstein, pour mettre en avant cette réponse à cette question, il parlait des rages de dents. Et il disait, comment peut-on décrire une rage de dents? Alors la question se pose. Alors on pourrait dire, c'est une douleur effroyable. Mais une fois qu'on a dit que c'était une douleur effroyable, on n'a rien dit. Et là, on est coincé. On est coincé parce que on n'a pas moyen, en fait, de décrire exactement. Enfin, de décrire, on peut toujours le décrire, en faisant des analogies, en utilisant des images, des métaphores, mais on n'a aucun moyen d'exprimer, en fait, ce que l'on ressent au cours d'une rage de dents, à part de dire que c'est douloureux. Mais incapable de transmettre autrement ce sentiment par le langage.
Mais enfin, on est conscient d'avoir mal. Et quand on est conscient d'avoir mal, est-ce que, du point de vue neuronal, ça se voit? Est-ce que l'activité neuronale traduit des phénomènes, montre des phénomènes que vous observez qui correspondent à cette douleur?
Mais bien sûr, mais ça c'est une question, d'ailleurs c'est très intéressant, le côté douleur par rapport à la question que vous posez sur la relation qui existe entre l'activité neuronale qui sous-tend la douleur et sa relation avec la douleur, c'est l'une des premières questions qui a été posée par celui justement qui a découvert les potentiels d'action. Il s'appelait Émile Dubois-Raymond, c'était un physiologiste, un philosophe allemand du 19e siècle, alors même qui découvrait le fonctionnement fondamental des neurones dans le cerveau et au niveau même de la périphérie du corps, il a tout de suite compris qu'il serait inexplicable, ou qu'on ne pourrait pas expliquer, la relation qui existe entre ces événements électriques qu'il décrit et qu'il sait sous-tendre l'encodage de toutes les informations dans le système nerveux et la sensation correspondante.
Il dit même qu'on ne le comprendra jamais.
Il dit même que c'est le mystère absolu. Fait partie d'une philosophie, je ne la connais pas très bien, qu'on appelle le mystérianisme, qui consiste à dire il y a des questions auxquelles on ne pourra pas répondre. En voilà une, comment comprendre la transformation ontologique entre des décharges de potentiel d'action, car c'est comme ça que se fait le codage de l'information douloureuse, et puis le ressenti subjectif, intérieur, de ce que c'est qu'une douleur.
Stéphane Charpier, parlons maintenant du libre-arbitre, qui est le sujet de cette émission. C'est une question qui fait penser à la mécanique quantique. Parce que vous savez, quand en mécanique quantique, on dit qu'une particule peut être dans un état superposé. Donc elle peut être dans un état qui est la somme de deux états, A plus B, disons. Et si on fait une mesure, on trouve soit A, soit B. Et évidemment, la question qui est posée, c'est si on trouve A, est-ce qu'en fait c'était pas A dès avant la mesure? De sorte que la mécanique quantique manquait d'informations. Ce qu'on appelle des variables cachées. C'était le point de vue d'Einstein. Si l'état de la particule c'est A plus B, et si je trouve A, c'est qu'en fait la particule était déjà dans A avant la mesure, mais j'étais pas au courant parce qu'il me manquait des informations. De même que quand j'ai l'impression de prendre une décision libre, rien ne me prouve qu'en fait elle n'a pas été déterminée par des phénomènes sous-jacents que j'ignore, qui la rendraient déterministe.
On connaît un peu les mécanismes qui nous conduisent à la prise de décision, mais le fait est... Alors je pense que déjà, ce qui serait peut-être utile, c'est de définir ou de trouver une définition commune à ce que c'est que le libre-arbitre. Car je me suis rendu compte, en discutant avec mes étudiants, par exemple, que la notion de libre-arbitre peut être assez fluctuante. Celle que j'utilise dans mon livre est que le libre-arbitre serait notre capacité d'agir après une délibération interne, libre de choix et consciente, et surtout, et c'est ça le point d'achoppement très important qu'il faut préciser, et que l'aspect phénoménal, donc l'intention mentale d'agir, serait déterminant et déterministe dans l'exécution du comportement. Bon. Si c'est ça le libre-arbitre, il ne peut pas exister. Et ça a été prouvé. Alors pour répondre à la question, je reviens un peu en arrière par rapport à votre questionnement, pour répondre à la question, si le libre-arbitre c'est ça, et ça a l'air aussi d'être ça de la manière dont vous l'avez abordé, à ce moment-là, le libre ne peut pas exister. Parce que d'abord, ça a été démontré scientifiquement, mais je suis même surpris d'ailleurs qu'on puisse imaginer qu'il puisse exister. On peut prendre un exemple très simple. Ce matin, vous, moi, toutes les personnes qui nous écoutent probablement, se sont levés à un moment donné, puis ils ont appuyé sur le bouton de leur cafetière. Bon. Alors, on va se dire intuitivement, j'ai eu la volonté de, j'ai désiré appuyer, prendre un café parce que je viens de me réveiller. C'est ma décision mentale intérieure d'appuyer sur le déclenchement de la cafetière qui est à l'origine de cet acte.
Donc, il s'est passé quelque chose dans mon cerveau qui a eu un effet sur ma main. J'ai appuyé sur le bouton.
Mais clairement, et ça, on connaît bien, la neurophysiologie peut décrire assez précisément, par exemple, comment votre bras va se diriger vers l'endroit très précis d'un espace à trois dimensions pour pouvoir appuyer sur le bouton.
Piloté par le cerveau.
Tout est piloté. Le geste final d'appuyer, bien sûr, mais en amont, le moment où vous vous êtes dit intérieurement, j'ai envie de prendre un café et je vais maintenant me diriger vers ma cafetière pour appuyer sur le bouton qui va déclencher l'écoulement de l'eau, eh bien, votre cerveau avait décidé en amont, sans vous prévenir, c'est-à-dire dans une période où vous n'étiez pas conscient de vouloir appuyer. Donc tous les processus prémoteurs, c'est-à-dire antérieurs au déclenchement du mouvement, se mettent en place avec des dynamiques que l'on commence à comprendre, mais on n'a pas encore le détail des processus neurophysiologiques sous-jacents, mais par contre, on peut en décrire en grande partie, et ces phénomènes vont se mettre en place, vont se réaliser à l'intérieur de votre cerveau, et à un moment donné, il va se passer deux choses. La première chose, c'est que une fois que cette activité prémotrice inconsciente acquiert une certaine structure, une certaine dynamique, tac, le mouvement peut se réaliser. D'accord? Et juste avant qu'il se réalise, et ça c'est intéressant, c'est quand même bien foutu le cerveau, mais juste avant qu'il se réalise, cette même activité va aussi transmettre, là j'utilise des images qui sont pas forcément appropriées, mais va transmettre à votre sphère consciente le fait que vous avez envie d'appuyer sur le bouton. Sauf que votre cerveau a tout décidé, mais je vais décider entre guillemets bien sûr, votre cerveau s'est déjà organisé lui-même, je dis bien lui-même, pour faire en sorte que vous fassiez ça, ce geste en question, et que vous en ayez conscience de
mais
vouloir
si
le faire.
Mais si je comprends bien, Stéphane Charpier, c'est mon cerveau qui a décidé que j'allais avoir envie.
C'est toujours comme ça, Étienne.
Mais est-ce que, en amont de cette activité du cerveau qui va déterminer mon envie, je peux pas imaginer qu'il y a un besoin général de mon corps transmis au cerveau qui lui signifie « j'aimerais bien un café ». Mais le et besoin... du coup, le cerveau obéit à cette impulsion mais venant du corps.
Le besoin général du cerveau à obéir au corps fait partie du processus neurophysiologique et fait partie notamment des processus d'homéostasie, par exemple. Par exemple, là, si vous avez soif, il fait très chaud en ce moment, donc on a envie de boire. Donc vous allez vous lever chez vous, ici, dans cette pièce, je vais tendre la main pour prendre mon verre d'eau. Bon, on pourrait croire, par exemple, que le déterminisme de ce comportement, c'est ma volonté de prendre ce verre d'eau. Mais comme vous l'avez dit, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il existe des besoins physiologiques qui vont être transmis au cerveau. Et ces besoins physiologiques qui vont être transmis au cerveau, ils ne sont pas encore perçus consciemment à ce moment-là.
Oui, mais c'est-à-dire que le cerveau ne décide pas tout seul. Parce que vous l'avez dit vous-même, quand il fait chaud, on a plus envie de boire. Ça veut dire que le corps ne se comporte pas vis-à-vis du cerveau quand il fait chaud que quand il fait moins chaud.
Bien sûr, mais sauf que le corps est assujetti au cerveau. Car imaginez un corps, par exemple, qui est, je mets des guillemets, soif, qui soit en déperdition d'eau, par exemple. Privé de cerveau, il serait incapable de pouvoir faire en sorte de pouvoir se boire un verre d'eau. Par conséquent, même s'il existe des contingences physiologiques qui ne sont pas directement de type neurophysiologique, elles existent et elles vont se répercuter sur l'activité du cerveau qui, lui, va faire en sorte de pouvoir régler un problème, en fait. Et parce qu'il est configuré ainsi, en fait. Le problème, en l'occurrence, c'est de boire quand on a soif, tout simplement. Mais quand je dis ça, en fait, rien là-dedans, c'est ça que je voudrais insister là-dessus, je m'excuse, rien dans tout ce que je viens de dire ne fait intervenir dans un processus de cause à effet la volonté consciente de vouloir boire, même si on ressent très fortement la soif.
Ça, j'ai bien compris, et j'imagine que vous n'allez pas tarder, Stéphane Charpier, à nous parler de Benjamin Libet et de sa célèbre expérience, à propos de laquelle j'aurais une question à vous poser, mais j'aimerais bien que vous nous disiez qui était ce chercheur et en quoi a consisté l'expérience qu'il a rendue célèbre.
Oui, pour moi, c'est l'un des plus grands neurophysiologistes. Enfin, j'ai dit ça, mais je ne l'ai pas connu. Et là, j'aurais pu le rencontrer une fois, mais je l'ai loupé. Bon, je le regrette profondément. Donc, Benjamin Libet était un neurophysiologiste américain, issu d'une famille juive ukrainienne d'immigrés. Et puis, il s'est passionné très tôt pour la physiologie et pour la neurophysiologie.
Et pour les grenouilles.
Et pour les grenouilles, ça a été ça. Oui, alors, parce qu'il a, donc il avait un mentor, un directeur de.
Les grenouilles sont à Libet ce que les poissons rouges sont à Stéphane Charpier.
Voilà, vous me faites un honneur énorme. Merci pour ça. Mais c'est vrai que Benjamin Libet, il a aussi, puisque là on parle un peu de ce qu'il a fait avant de travailler sur le libre-arbitre, il a aussi montré qu'un cerveau isolé de grenouille, c'est-à-dire si on prélève le cerveau, c'est étrange ce qu'on fait dans les neurosciences.
Vous êtes des drôles de gens, oui.
Des drôles de gens, on n'est pas fréquentables. Si on prélève le cerveau à une grenouille et qu'on le met dans une condition où ce cerveau va pouvoir survivre, c'est-à-dire il y aura ce qu'il faut pour qu'il puisse survivre, eh bien on peut enregistrer une activité. Alors après, ce qu'il a voulu faire, il a voulu répondre à une question qui n'avait pas été résolue préalablement par un autre chercheur, qui est allemand, lui, qui s'appelait Helmut Kornhuber. Et Helmut Kornhuber, en son temps, dans les années 1960, il avait voulu poser une question qui n'avait jamais été posée auparavant. C'est un peu curieux, d'ailleurs. Et la question qui était posée par Kornhuber était: qu'est-ce qui se passe dans le cerveau avant un mouvement libre? Donc Helmut Kornhuber avec son thésard, eh ben ils ont eu une idée géniale et ils ont eu une idée de regarder les phénomènes neurophysiologiques, mais à l'inverse de la flèche du temps. Je sais que vous aimez pas cette expression, mais je suis obligé de l'utiliser en l'occurrence. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont pris comme T0, d'accord, comme instant zéro, le début de la contraction du muscle. Le sujet avait comme consigne d'agir au moment où il voulait pour faire un acte donné. Bon. Alors, ce qui est bien avec leur technique, c'est qu'ils pouvaient enchaîner le début du mouvement en mesurant l'activité électrique du muscle. Et puis, simultanément, et c'est là le coup de génie, ils ont enregistré l'activité électrique du cerveau. Au lieu de regarder ce qui se passe dans le cerveau et après, alors si on se passe au cours du temps, de regarder ce qui se passe au niveau du muscle, ils ont eu l'idée de retourner tout ça temporellement. C'est-à-dire qu'ils ont pris comme instant zéro, je dirais, le futur dans le mouvement, je veux dire, donc le début de la contraction du muscle. Ils ont fait un Moyen-Âge rétrograde temporel, et par conséquent, ils ont regardé en amont ce qui se passait dans le cerveau. Et là, ils ont découvert quelque chose de tout à fait considérable, et de tout à fait étonnant, d'abord, c'est qu'il y avait une onde électrique qui commençait dans le cerveau bien avant le début du mouvement. Et puis ils ont vu qu'elle était localisée dans une région particulière, dont je ne sais pas si on va en parler, qu'on appelle l'aire motrice supplémentaire. Ce qu'a fait Benjamin Libet, lui...
Attendez, ce truc-là, pardon, c'est ce qu'ils appellent le potentiel de préparation, ce qui en allemand se dit...
Bereitschaft Potential.
C'est-à-dire que, si je comprends bien, l'activité musculaire qu'on demande au sujet d'avoir un moment qu'il choisit librement, en fait, est prédéterminée par une activité neuronale qu'on peut observer et qui se présente, enfin qui a été nommé potentiel de préparation.
Exactement. Et ce qui était étonnant, c'était que cette activité électrique du cerveau, en fait, elle commence bien avant, une seconde avant. Mais vous voyez, en fait, on va peut-être en parler, ça peut commencer encore bien avant qu'une seconde. Et ce qu'a fait Benjamin Libet...
C'est
en 1964, en ce moment. Et ce qu'a fait Benjamin Libet une vingtaine d'années plus tard, il a dit: ok, très bien, les expériences de Kornhuber avaient été répliquées, ça marchait très très bien, mais lui, il est Libet, c'est le coup de génie de Libet. C'est se dire, ok, on a le processus prémoteur du mouvement libre, mais à quel moment précisément on a envie d'agir? On a la volonté consciente, on appelle la volition, la volonté consciente d'agir. Et là, il a inventé une horloge, je l'appelle l'horloge magique, tellement c'est génial. C'est une horloge que les personnes qui démarrer un mouvement libre, il regardait une horloge avec un point lumineux qui tourne, et puis on demandait au sujet de déterminer le positionnement du point sur cette horloge au moment où ils avaient la volonté consciente, subjective. On peut dire, oui, mais tout ça, eh bien, il y a un biais, c'est subjectif. Non, mais on s'en fout, ça ne dérange pas, parce que c'est bien le but, c'est de recaler dans le temps la subjectivité.
Donc il y a un point lumineux qui tourne autour d'un cadran, il y a des numéros,
c'est ça,
et le sujet doit décider du moment où il interrompt le mouvement de ce point lumineux.
Non, et en fait, il ne l'interrompt pas, il va juste détecter le positionnement de ce point lumineux au moment où il a subjectivement l'envie d'agir.
Oui, mais il y a un truc qui va pas, il me semble. C'est qu'on lui demande de le faire de façon spontanée.
Oui.
On lui dit, sois spontané dans ton choix.
Oui.
Mais il sait qu'il doit choisir. Il a une sorte de prédisposition. Alors, qui vient de cette injonction qu'on lui fait de devoir agir.
Alors, c'est une injonction de devoir agir, mais il est libre de l'instant.
Oui, mais il est concentré sur le fait qu'il doit en choisir un.
Oui, mais il est libre de l'instant. Et en fait, même s'il doit en choisir un, il est libre de l'instant. Et cette activité dont je parle, elle n'existe que quand il va déclencher le mouvement lui-même qu'on va pouvoir réaliser le Moyen-Âge rétrograde à partir du début de l'activité musculaire. Et ce qui a été montré aussi, mais ça très tôt par Kornhuber, c'est que l'intensité de... Alors là, on parle de subjectivité. Hein, l'intensité de l'intention mentale d'agir est en relation même avec l'amplitude de ce potentiel électrique cérébral. Ce potentiel électrique cérébral, pour en revenir, pour essayer de contrecarrer votre critique, il n'existe pas si vous réalisez un acte qui est contraint par votre environnement. Par exemple, si je, enfin, je vais pas le faire, hein, mais si je jette le verre et que vous l'attrapiez, vous allez déclencher un mouvement moteur, qui est à peu près similaire à celui qu'on demandait d'ailleurs au sujet de Cornubert et de Libette. Mais si je mesure, si je fais le même type de moyen-âge rétrograde de l'activité de votre bras qui va attraper le verre, alors que je vous le jette, je ne verrai pas cette onde-là, ce Bereitschaft potentiel.
Je vais réagir à une impulsion qui vient de l'extérieur.
Vous réagissez à quelque chose d'extérieur. Donc, ce qu'ils ont montré, ce que Cornubert a montré, Benjamin Libet et d'autres, hein, c'est pas là, on parle pas de quelque chose d'exceptionnel ou d'exotique. Ce qui a été bien démontré, c'est que ce type d'activité prémotrice ne survient que si elle est déterminée de manière endogène. D'accord. Si elle se réalise sous la pression de l'environnement, elle n'existe pas. Là, il y a d'autres régions.
C'est pas une réaction, c'est une action.
C'est pas une réaction, c'est une action, mais c'est une action qui vient de l'intérieur. Si le déterminisme est issu du monde extérieur avec des stimulus qui vont constituer une certaine forme de contrainte pour faire en sorte que le corps puisse agir en conséquence de ce qui se passe dans son environnement, cette onde-là n'existe pas.
Alors, quelle est la conclusion que vous tirez, Stéphane Charpier, des expériences de Benjamin Libet et d'autres qui ont été faites par la suite?
Alors,
c'est l'idée que quand on a l'impression d'avoir pris une décision, d'avoir choisi un moment en l'occurrence, oui, en fait, on a été l'exécutant d'une décision prise par le cerveau sans qu'on en ait conscience.
Exactement, puisque pour finir l'expérience, j'ai pas fini, pour finir l'expérience, c'est que Benjamin Libet montre en fait que la volonté consciente survient 200 millisecondes avant le mouvement, d'accord, mais le début de l'onde en question survient une seconde avant. Et même des fois plus que ça. Donc finalement, ce qui se passe, quand vous avez, et ça c'est vrai tout le temps dans notre existence, tout le temps, tous les jours. Enfin bon, je pense pas que ce soit bon d'y penser tout le temps non plus, hein, ceci dit. Mais dès qu'on réalise un acte apparemment libre de choix, avec un processus de décision que l'on croit être à l'origine en fait du mouvement qu'on est en train de réaliser, en fait le cerveau a déjà réglé le problème, il a tout mis en place, et il va faire en sorte d'exécuter ce que le cerveau désire, et pas vous. Je dis bien pas vous, parce que vous n'avez pas encore conscience de vouloir l'exécuter. Mais par contre, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il nous informe, en fait, que l'on a envie de le faire, alors qu'il a décidé avant qu'on allait avoir envie de le faire.
Mais est-ce que c'est pas terrible comme conclusion? Cette espèce de renoncement que ça oblige à faire avec la conscience qu'on a d'être acteur de ses propres choix.
Et ça n'empêche pas d'être acteur dans ses propres choix, dans le sens où, enfin moi, c'est ma vision de cette situation un peu paradoxale. C'est-à-dire, en fait, on a le sentiment d'être libre de nos actions, mais le sentiment, il est réel. Sauf que, en parallèle, je dis bien parallèlement, notre cerveau fonctionne pour pouvoir faire en sorte que ce soit le cas. Mais il fonctionne avant. C'est-à-dire, on est cette espèce de sentiment de vouloir d'être capable d'agir en conséquence et selon notre volonté libre, eh ben elle est le produit d'un cerveau qui est activé, qui s'active avant que l'on en ait besoin. Donc on a une sorte de double vie, je dirais. Je veux pas dire le mot existence, là il serait un peu galvaudé. On a une sorte de double vie, une vie, je dirais, neurobiologique, et celle du fonctionnement cérébral, et puis une vie qui, elle, serait subjective, qui est subjective, et qui, elle, qui est un peu décalée dans le temps. On est un peu à la traîne, quoi. Notre expérience consciente est toujours un peu à la traîne de notre cerveau. Il est toujours en avant de 500 millisecondes, une seconde, et même des fois de plusieurs secondes, ça a été montré aussi.
Mais est-ce qu'on pourrait dire, Stéphane Charpier, que finalement, notre cerveau n'en fait qu'à sa tête, c'est que nous, on suit comme on peut, quoi.
Ben, c'est ça. Et je conseille tous les auditeurs, par exemple, je leur demande de faire une petite expérience. Moi, je fais ça des fois dans le métro ou dans le bus. Je regarde les personnes autour de moi. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens debout qui parlent, qui font des grimaces, qui font des sourires. Voilà, on sent, alors on voit l'expression extérieure d'une intériorité, d'accord? Mais une fois qu'on a lu mon livre, peut-être, mais même avant, hein, on peut se dire simplement, en regardant les comportements humains, je dis bien quels qu'ils soient, hein, je mets aucune restriction là-dedans. Et parce que l'on voit agir, quand on voit agir un être humain, c'est son cerveau.
Et rien d'autre.
Et rien d'autre.
Donc on serait finalement des automates.
Non, on n'est pas des automates, parce qu'un automate n'est pas conscient. Nous, on est conscient. On
des a automates conscients.
Alors, automate conscient, c'est pas mal. Ça, c'est Thomas Huxley. Mais c'est, ça, c'est, ça me plaît bien.
On entend ça comme une contradiction dans les termes.
C'est à la fois une contradiction, mais ça montre le côté dual de l'existence humaine.
Parce que l'existence humaine, on est des automates conscients, mais on n'est pas conscients d'être des automates.
Bah maintenant, oui.
Oui, maintenant, grâce à vous, mais j'ai pas envie de vous remercier sur ce coup-là. J'ai un anagramme pour vous, Stéphane Charpier. Parce que si je résume ce que vous nous avez expliqué dans ces dernières minutes, c'est que la sagesse d'un choix est en réalité téléguidée par le chaos des signaux.
Oui, c'est ça. Hein.
Bah, la sagesse d'un choix, pour anagramme, le chaos des signaux.
Bravo.
Vous parlez dans votre livre Le cauchemar de Descartes, du film de Kubrick, Docteur Follamour.
Oui.
Et vous racontez cette scène hilarante où le docteur Follamour, avec son bras gauche, empêche son bras droit de
faire le salut nazi.
Le salut nazi. Donc ça veut dire que son cerveau lui demande de faire deux choses contradictoires. Ou d'empêcher qu'une partie du corps fasse ce que l'autre voudrait faire.
Ouais,
et en quoi ça a à voir avec la question du libre-arbitre?
Ça n'a pas directement... Enfin si, ça a à voir avec la question du libre-arbitre, mais ça a surtout à voir avec la zone du cortex cérébral qui sous-tend cette activité prémotrice qui est responsable du sentiment illusoire d'être libre de nos mouvements. Ça veut dire que cette structure, elle est capable de déclencher un mouvement sans que l'on ait conscience, et quand elle subit des lésions, notre cerveau est capable de faire un acte qui peut être contrecarré par une autre partie de notre cerveau. Le docteur Follamour, qu'est-ce qui lui arrive en fait? Il a des activités motrices qui sont des activités motrices qui vont... Alors qui est dû à son éducation, parce que c'est un ancien nazi, je crois, le docteur Follamour. Hein, c'est ça, hein, c'était un ancien savant.
Il a été inspiré notamment par von Braun, qui était concepteur des V2.
Donc il a en lui cette espèce de réflexe comportemental, c'est de faire le salut nazi. Bon. Mais quand il avait ces deux, j'essaie d'imaginer ce qui se passe dans le cerveau du docteur Follamour, quand il avait ces deux aires motrices supplémentaires qui fonctionnaient correctement, il était capable, en fait, de s'empêcher de le faire. Alors quand je dis il, c'est son cerveau. Son cerveau était capable, de par les propriétés de cette activité prémotrice, de contrecarrer une sorte de pulsion qu'il avait de réaliser cet acte. Certains patients ont des lésions de l'aire motrice supplémentaire et ils vont faire, par exemple, ils vont réaliser séquentiellement des mouvements contradictoires. Cette dame, par exemple, qui prend le téléphone d'une main, puis qui veut prendre le téléphone de l'autre main pour le raccrocher. Donc on peut avoir des phénomènes de comportement, de contradiction antagoniste d'un comportement qui va être déterminé si on a une lésion de l'une des deux aires motrices supplémentaires.
Pour en finir avec Benjamin Libet, Stéphane Charpier, vous citez une phrase d'Einstein qu'il aurait mise dans l'article dans lequel il présente cette horloge magique que vous avez décrite. Il dit, cette citation d'Einstein, c'est « Toute connaissance sur la réalité commence par l'expérience et finit par elle. » Sauf qu'il n'y a pas les références.
Non,
je les ai cherchées et je n'ai pas trouvé. Et en plus, c'est une phrase qui est contradictoire avec ce que dit Einstein la plupart du temps. Par exemple, il dit dans une lettre à son ami Maurice Solovin, « Aucune méthode inductive ne peut conduire aux concepts fondamentaux de la physique. L'expérience peut bien entendu nous guider dans notre choix des concepts mathématiques à utiliser, mais il n'est pas possible qu'elle soit la source d'où elle découle. C'est dans les mathématiques que réside le principe vraiment créateur, etc. » Autrement dit, cette citation ne ressemble pas à Einstein. Je vous le dis comme ça.
Non, mais qui je dois croire, Benjamin Libet ou Étienne Klein?
Comme Benjamin Libet ne met pas la référence, je vous propose de me croire.
Ah non, mais moi, je vais vous croire volontiers, mais je pense que...
À moins de votre libre arbitre.
Non, mais c'est ce que j'allais dire.
Ce qu'il en reste.
C'est ce que j'allais dire. Non, mais je pense qu'il n'y a plus de libre arbitre, il faut arrêter avec ça. Mais pour ce qui concerne cette phrase, effectivement, j'ai trouvé, non pas dans un article, mais dans un livre dans lequel Benjamin Libet a fait une synthèse de ses publications sur le sujet. Il a mis ça là.
Je ne peux pas croire qu'Einstein ait écrit ça.
Non, mais je vous explique juste comment j'ai fonctionné. Donc j'ai vu ça, ça m'a plu, et puis ça correspondait bien, évidemment. Alors peut-être que Benjamin Libet a pris ses rêves pour des réalité, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aimerais qu'Einstein ait dit une chose pareille.
Voilà. Autre anagramme, c'est une errance intolérable. Renoncer à la liberté, errance intolérable. Je vous laisse réfléchir là-dessus.
Non, je suis assez d'accord.
Alors vous parlez de Schopenhauer, Stéphane Charpier, qui a écrit un essai sur le libre arbitre, et vous laissez entendre, vous-même, vous dites même de façon explicite, qu'il avait tout compris.
Oui.
Alors, qu'est-ce que Schopenhauer dit dans cet essai qui coïncide avec les découvertes dont vous nous parlez là?
il dit tout sans rien connaître du fonctionnement du cerveau, et c'est ça que j'ai trouvé absolument génial. Schopenhauer, en fait, il attaque très fortement ce qu'il appelle le naïf. Moi, ce que j'appelle le naïf de Schopenhauer, c'est celui qui est pris, en fait, par l'instant, par l'évidence de l'instant. Moi, ce que j'appelle une sorte de flagrance métaphysique, c'est-à-dire, je veux faire ça, je suis libre de faire ça, je fais. Et donc, ce qui est responsable de mes comportements, eh ben, c'est ma volonté de vouloir agir. Voilà. Et ce que Schopenhauer développe, non, nécessairement, la subjectivité ne peut rien avoir à faire là-dedans, parce que tous les phénomènes qui vont se déployer dans un organisme, et en particulier le corps humain, va faire en sorte de réaliser une action, mais à l'origine de cette action, il y a nécessairement le monde physique, et il dit, il détaille un peu, enfin, les deux mondes physiques, c'est-à-dire le monde physique, l'humain lui-même, et le monde physique issu de l'environnement. Et de ce point de vue-là, je peux dire, et je pense, oui, qu'il a effectivement tout compris, puisque finalement, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, on a les propriétés du cerveau, mais un cerveau, il a une vie, il a un passé, il a une histoire. Donc il se configure, d'une certaine manière, selon son histoire, selon ses expériences. Donc finalement, ce qui va être déterminant dans notre comportement, c'est ce que dit Schopenhauer, c'est la réalité physique du monde, et les propriétés physiques du cerveau.
Vous parlez aussi de Johnny Wilkinson, le grand rugbyman qui tirait des pénalités avec une efficacité remarquable.
Fan de Johnny.
Et vous racontez comment ça se passe quand il prépare le tir d'une pénalité. Il a un temps imparti pour le faire, quelques secondes je crois.
Une minute.
Mais qu'est-ce qui se passe, d'après vous, quand vous le regardez, dans son cerveau, quand il exécute cette suite de mouvements ? Il y a la phase de concentration.
Alors déjà, on peut pas se mettre à la place de Johnny Wilkinson. Et d'ailleurs, même un autre buteur de rugby pourrait pas se mettre à la place de Johnny. Mais en fait, qu'est-ce que l'on voit ? Johnny, il est dans un contexte. Alors déjà, avant, peut-être, il faut comprendre. Et ça, c'est vrai pour nous aussi. C'est pas vrai que pour Johnny Wilkinson. On a appris des tas de trucs et des tas de choses que l'on a apprises quand on était jeune, à créer dans notre cerveau, à fixer dans notre cerveau des engrammes. Qui permet en fait, qui nous permettent quotidiennement de réaliser des actions sans avoir conscience précisément de la séquence des mouvements qu'on est en train de réaliser. Vous portez des chaussures, Étienne Klein ?
Oui.
Avec des lacets ?
Oui.
Vous avez lacé vos chaussures ce matin ?
Oui.
Bon, et alors, vous avez bien réfléchi à ce que vous étiez en train de faire ou ça s'est fait tout seul ?
Non, ça s'est fait tout seul.
Comment ça se fait ? Un acte aussi compliqué se fasse tout seul ?
Mais c'était pas le cas la première fois.
Non.
J'ai galéré.
Et c'est pareil.
D'autant plus que je suis gaucher.
Alors je vois pas le rapport, mais
c'était pas les mêmes gestes que pour mes frères, par exemple.
Ah, d'accord. Alors, maintenant je comprends. Et c'est pareil pour Johnny Wilkinson. En fait, dans le cerveau, quand on apprend certaines séquences comportementales, il y a des réseaux de neurones qui font partie d'un système qu'on appelle le système des ganglions de la base, qui vont engrammer ces informations, qui vont les fixer, et ça nous permet, c'est super efficace en fait, ça nous permet en fait de déclencher des séquences comportementales complexes sans avoir besoin de mettre de la conscience là-dedans, c'est-à-dire d'avoir des étapes successives dans ce comportement qui feraient intervenir la conscience.
Vous dites, pareil, là,
on appelle ça des routines.
J'entends que vous avez un débit verbal assez rapide, fluide.
C'est trop long peut-être.
Or, non, pas du tout, mais vous dites que quand on parle, on ne sait pas à l'avance ce qu'on va dire. Je vous cite explicitement, en réalité, nous prenons connaissance de ce que nous disons en nous écoutant parler, et nous ne sommes pas surpris, ou rarement, car ce sont nos mots choisis et produits par nos neurones.
Ben oui.
Et moi, quand je parle, j'ai l'impression que je sais ce que je vais dire.
Bien sûr que non. Réfléchissez bien, parce que vous avez aussi un bon débit et vous parlez beaucoup. Donc quand vous parlez, pas trop, juste ce qu'il faut. Donc quand vous déployez vos phrases et vos raisonnements, bien sûr que vous êtes en accord avec ce que vous dites, bien entendu. Mais honnêtement, est-ce que vous avez choisi chacun des mots dans chacune de vos phrases ? Est-ce que vous avez choisi ça ? Est-ce que vous avez fait cet effort mental ? Quand je dis effort mental, je parle évidemment de ce qui se passerait dans le cerveau en relation avec cet effort mental. Est-ce que vous avez fait ça ? Non. Enfin, même si on essaye de le faire, moi j'essaie de le faire, c'est même presque paralysant de vouloir anticiper dans un discours chaque mot qu'on va dire.
C'est-à-dire qu'en fait, ça sort tout seul d'une façon qu'on ne contrôle pas.
Non, mais tout est en place déjà avant. C'est-à-dire, en fait, pour moi, c'est une démonstration implacable.
C'est-à-dire que je prends conscience en parlant de ce que je veux dire.
Mais bien sûr. Mais c'est clair. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on découvre ce que l'on dit. Mais l'organisation du langage et la manière que l'on a de s'exprimer en faisant des phrases, en faisant des phrases, bien sûr. Mmh. On peut penser un mot, dire un mot. Mais si on fait des phrases, si on fait un discours comme ça, plus fluide ou plus ou moins fluide, nécessairement, on a un phénomène qui se déroule spontanément. Mais c'est pas pour autant qu'on est surpris. On sait ce qu'on va dire, mais on le sait. Mais par contre, on sait vraiment ce qu'on a dit une fois qu'on l'a dit et qu'on s'est entendu le dire.
Nous sommes les locuteurs de notre cerveau quand
bien
nous
sûr,
parlons.
Bien sûr.
Mais est-ce qu'on est les acteurs de nos actes?
Pardon?
Du coup, est-ce que nous sommes aussi les auteurs de nos actes?
Les auteurs, certainement pas. On peut pas être.
Alors, quid de la responsabilité individuelle? Question que vous traitez dans le livre à la fin. Stéphane Charpier, question délicate.
C'est une question extrêmement délicate et j'attends d'être contacté par des avocats qui veulent faire, qui désirent que leur client soit gracié.
Et peut-être par des psychanalystes qui vont vous demander si l'activité neuronale dont vous parlez, qui détermine une partie de nos décisions, n'est pas l'équivalent dans le cerveau de ce qu'ils appellent l'inconscient.
Je fréquente très peu de psychanalystes.
Ça pourrait changer.
Peut-être je vais me faire agresser par des psychanalystes, probablement, mais... Oui, en fait, la responsabilité, bon, elle est de nature. Si, par exemple, demain, vous décidez, Étienne Klein, d'assassiner quelqu'un, bon, vous avez la volonté de le faire. D'accord ? Bon, on ne peut pas vous condamner pour avoir eu envie, intérieurement et secrètement, dans le secret de votre sphère mentale, d'avoir eu envie d'assassiner quelqu'un. Puis finalement, vous allez passer à l'acte, d'accord ? Bon, la différence entre passer à l'acte et juste avoir envie, c'est le fait d'avoir passé à l'acte, justement. Donc, c'est le fait d'avoir réalisé une action motrice. Mais si je pouvais, à cet instant, au moment où vous allez passer à l'acte et assassiner... Je suis désolé de prendre cet exemple, j'aurais pas dû vous rentrer là-dedans.
Je suis mal à l'aise. Je suis vraiment désolé. Mais continuez.
Donc, si on est dans cette situation-là, et si je pouvais, en même temps, enregistrer l'activité de votre cerveau, je découvrirais à coup sûr, j'ai bien à coup sûr, qu'en fait, le moment ultime où vous avez décidé, entre guillemets, puisque vous ne l'avez pas décidé, de passer à l'acte, avant cet instant, vous dites « Ok, j'y vais, je vais commettre ce crime », eh bien, l'activité, il existe une activité préalable de votre cereau qui va être similaire à celui du Bereitschaft potentiel de Kornhuber.
Potentiel de préparation.
Le potentiel de préparation de Benjamin Libet et de Kornhuber. Eh bien, il aura eu lieu. Sauf que le début de cette avalanche d'activités neuronales prémotrices aura lieu avant que vous ayez décidé de tuer cette personne. Et par conséquent, comment peut-on vous en vouloir, puisque votre cerveau, c'est-à-dire un objet physique, a décidé de prendre la décision, je mets des guillemets bien entendu encore une fois, mais je précise toujours, a pris la décision de commettre ce crime. Par contre, vous en avez eu subjectivement l'envie. Alors, comme j'ai dit dans mon livre, ce qu'il faudrait mettre en prison, c'est pas l'être humain physique, s'il faut mettre quelque chose en prison, c'est la subjectivité de la personne. Donc, il faudrait mettre en prison, il faudrait incarcérer, en fait, juste la sphère mentale des criminels et pas leur corps.
Vaste programme, mais ça pourrait libérer des places. c'est quoi le cauchemar de Descartes? Il y a les trois fameux rêves de Descartes qui raconte.
Parce que les rêves sont fameux, mais moi j'ai inventé des cauchemars. Mais j'ai, en fait, bon, mon éditeur m'a obligé à écrire. Mais je pensais que c'était évident. Je pensais que c'était suffisamment clair que ce livre était si Descartes avait pu le lire.
Faisons une expérience de pensée. Imaginons que Descartes lise votre livre.
Ah, d'accord.
Quelle sera sa réaction? À part aussitôt l'envie de commettre un crime, en l'occurrence.
Il y aurait, je pense, deux. En fait, c'était plutôt les cauchemars, mais c'était mieux. Le cauchemar de. Alors, disons les cauchemars. Le premier cauchemar de Descartes, c'est que son édifice physiologique s'effondre. C'est-à-dire, l'âme ne va pas agir sur le cerveau. Les nerfs ne sont pas des tubes creux. Les esprits animaux de Descartes n'existent pas. Ils ont été remplacés par les potentiels d'action. Donc, tout son édifice ne fonctionne pas. Et puis, ça, c'est le premier cauchemar. C'est-à-dire, la partie mécanique de l'interaction de la pensée ou de l'âme sur le cerveau s'effondre. Mais non, il y a un truc encore pire pour Descartes, je pense. C'est que la relation de cause à effet entre l'activité mentale, la res cognitans de Descartes et le fonctionnement cérébral se fait toujours dans le même sens. C'est-à-dire toujours du cerveau vers l'expérience consciente. Et ça, on le sait, mais on le sait depuis très longtemps, en fait. On le sait depuis 1909. En 1909, il y a eu une expérience qui, pour moi, qui est passée un peu sous les radars, comme on dit. J'aime pas l'expression, mais c'est quand un neurochirurgien qui s'appelait Harvey Cushing, c'est un des pionniers de la neurochirurgie, a fait une toute petite stimulation électrique au niveau du lobe pariétal d'un de ses patients qui avait été opéré pour une tumeur. il stimule. Donc en fait, là, il fait une intrusion dans le cerveau de son patient, et il va stimuler électriquement un tout petit bout de cortex. Et là, il produit une sensation, donc une expérience subjective du patient qui sent le bout de son doigt. Qu'est-ce qu'il fait, Cushing, quand il fait ça? Il montre une chose, c'est que la sensation du bout du doigt n'est pas dans le doigt et n'a rien à voir avec le doigt. C'est malheureux à dire, mais ça n'a rien à voir avec le doigt. Ce qui a à voir avec la sensation du bout du doigt, c'est l'activation de quelques neurones du cortex cérébral localisés dans une région précise du cerveau qui possède ce qu'on appelle une somatotopie. Chacune des régions de notre corps est représentée de manière topique dans le cerveau. D'accord ? Donc si on stimule le cerveau, on a la sensation. Si on stimule le bout du doigt, on a la sensation. Sauf que, si on coupe le doigt et qu'on stimule à l'endroit, on va avoir la sensation, mais pas inversement. Si on fait une lésion de la région corticale correspondante, d'accord ? À ce moment-là, on peut stimuler le bout du doigt et la personne n'aura pas de sensation. C'est QFD, la relation de cause à effet, c'est simplement de l'activation des neurones sur l'expérience qu'on tente, l'expérience...
Mais alors, Stéphane Charpier, question ultime, et j'attends de vous une réponse définitive. À quoi ça sert la conscience ? Est-ce qu'elle produit simplement le sentiment d'être vivant ?
Elle fonde notre présence au monde. Voilà ce qu'elle fait. Et imaginons, faisons cette expérience de pensée épouvantable, que vous, moi, et toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, soient privées de conscience phénoménale, que notre sphère consciente soit vide, par exemple. Alors déjà, rien que de l'imaginer, ça n'a aucun sens. Parce que imaginer quelque chose en termes de conscience vide, ça n'a pas de sens. On ne peut pas imaginer une conscience vide. Donc on serait... Mais imaginons, vu de l'extérieur, que ce soit le cas. Bon, ben... Ça serait quoi notre existence en tant que personne humaine ? Et c'est tout à fait... Et c'est apparemment paradoxal, puisque si on était dans une telle situation, on peut parier, c'est mon hypothèse, c'est que ça changerait rien, en fait, à notre comportement. Par contre, ça changerait tout à notre intériorité. On serait plus là, présent, vis-à-vis de nous-mêmes, dans le monde dans lequel nous sommes, si nous étions privés d'intériorité, mais notre existence physique au monde serait toujours là. Donc moi, je pense que la capacité du cerveau à produire une expérience consciente, une expérience subjective, en fait, est une sorte d'aléa de l'évolution. Enfin, je pense que c'est un épiphénomène. C'est comme ça que je le décris. Mais il est merveilleux, mais ça reste un épiphénomène. Et que finalement, l'expérience consciente par elle-même est un sous-produit, une sorte de production collatérale du fonctionnement cérébral qui produit cette phénoménalité qui nous permet d'avoir une intériorité et une présence au monde. Mais que si elle avait pas été là, ça n'aurait pas changé grand-chose pour des extraterrestres, par exemple, qui nous auraient regardé fonctionner. Ils auraient vu la même chose, d'accord ? Mais nous aurions été privés d'intériorité, donc on ne pourrait même pas en parler de la manière dont on en parle aujourd'hui.
Merci Stéphane Charpier d'être venu à la Conversation Scientifique. Avant de clore cette émission, je voulais lire une petite annonce, parce que cet été, pour la première fois en France, vont se dérouler les Olympiades internationales de physique organisées par la Société française de physique. Elles auront lieu à Paris du 17 au 25 juillet. C'est un concours international créé en 1967 qui met chaque année en compétition de brillants scientifiques de moins de 20 ans, filles et garçons, non encore inscrits à l'université. Cette émission était la dernière de la saison. C'est donc le moment pour Luc-Jean Reynaud, Thierry Bouchon et moi-même de vous remercier pour votre fidélité et de vous souhaiter un bel été, où que vous soyez, un été durant lequel certains épisodes de la Conversation scientifique seront rediffusés les samedis à 21h et les dimanches à 15h. En ce qui me concerne, j'aurai le plaisir de vous retrouver à ce même micro à la rentrée prochaine, tout à fait dopé aux endorphines et autres globules rouges, je me permets de vous en prévenir. C'était la Conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Bouchon, à la réalisation Ruben Carmazine et Souad Boukorsa, et à la prise de son Noé Chaban.